La thèse, la première thèse de Serge Bardet portait précisément sur Flavius Josèphe et sur l'historiographie de l'œuvre historique de Flavius Josèphe, avec en particulier une discussion qui est très importante dans les recherches sur la tradition chrétienne, enfin juive et chrétienne, sur donc une contribution sur ce qu'on appelle le Testimonium Flavianum, qui est un passage de Flavius Josèphe qui évoque Jésus, et Jésus comme étant Jésus-Christ. Passage qui est très discuté, dont on se demande si cet écrivain juif l'a réellement écrit lui-même ou s'il a été ajouté ultérieurement par les copistes chrétiens qui ont transmis son œuvre. Outre cette publication, Serge Bardet a également publié une traduction, enfin une édition et traduction d'un livre des Antiquités juives de Flavius Josèphe, en collaboration avec l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, et il prépare la publication d'autres livres de la fin des Antiquités juives dans le cadre du même projet international de coopération, édition, traduction, patronné par l'école biblique et archéologique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de Flavius Josèphe qui va nous parler, mais d'un auteur qui est à la fois très proche et très différent de lui, Philon d'Alexandrie. Je laisse donc la parole à Serge Bardet qui va présenter lui-même cet auteur qu'il connaît bien.
Merci Edith, bonjour à tout le monde et j'ai pas besoin de vous dire, je pense, combien je suis désolé de ne pas pouvoir revisiter l'abbaye aux dames et l'abbaye aux hommes. Je préférerais être à Caen plutôt que chez moi. Mais on va quand même essayer de réfléchir donc sur Philon d'Alexandrie. Alors, première question, parce que c'est quand même pas une célébrité, qui est Philon d'Alexandrie? Autant vous le dire tout de suite, c'est un auteur difficile d'accès. C'est un petit peu, je ne sais pas s'il y en a qui ont essayé de lire du Lévinas aujourd'hui, c'est un petit peu comparable. Bon. Chronologiquement, il a dû naître aux alentours de 20 avant Jésus-Christ et mourir aux alentours de 45 après, c'est-à-dire sous l'empereur Claude. Culturellement et sociologiquement, c'est un juif, c'est un auteur juif d'Alexandrie, c'est-à-dire qu'il vit dans la grande métropole culturelle grecque avec Athènes. Il est donc culturellement grec, avant tout hellénophone, au point qu'on débat beaucoup sur sa connaissance réelle de l'hébreu, qui semble assez limitée de fait. Juridiquement, il est un citoyen romain parce qu'il appartient à une famille importante. Hein, il est le membre d'une famille de grands publicains en Égypte. Il a plusieurs frères. Son plus jeune frère était le gendre d'Hérode Agrippa Ier, qui est le fils du grand et fameux roi Hérode que Édith Parmentier connaît intimement. Et son frère cadet est Arabarque, c'est-à-dire une sorte de fermier général pour les taxes douanières et portuaires du commerce est-égyptien. Et tous ces gens-là connaissent, toute cette famille connaît personnellement l'empereur Claude avant même son accession au pouvoir. Donc, à certains égards, son accession tout à fait inopinée au pouvoir a été une sorte de divine surprise pour ces milieux dirigeants de la communauté juive. Mais je vous l'ai dit, c'est un philosophe. Toute son entreprise consiste en trois pans, si vous voulez, trois volets. Principalement à interpréter l'écriture sacrée, la Bible, à la lumière de la philosophie platonicienne. C'est ce l'époque de ce qu'on appelle le moyen platonisme. Secondairement, il a toute une œuvre apologétique, c'est-à-dire de défense du bien fondé de ses positions, à usage interne dans la communauté juive, et probablement aussi en direction des milieux gréco-romains ouverts, on discute beaucoup sur la pertinence du terme tolérant, mais disons ouverts à une certaine dose d'altérité. Et puis, troisième volet, parfois, mais c'est précisément ce qui va nous occuper maintenant, parfois, il s'occupe à polémiquer au profit de la communauté contre, d'une part, contre les autorités alexandrines, grecques, violemment antisémites. Il y a un pogrom à Alexandrie en 38 après Jésus-Christ, et contre les autorités romaines, on va le voir, l'empereur Caligula, mais aussi les préfets d'Égypte qui sont accusés de la même malveillance que les autorités alexandrines. Le grand principe de son entreprise exégétique, c'est que la Bible est un discours allégorique, à ne surtout pas prendre littéralement. Donc, si vous voulez, un point de comparaison, on est à l'opposé radicalement du wahhabisme actuellement. Mais ce discours allégorique, c'est le platonisme qui permet de l'interpréter. Il y a donc une dimension mystique chez Philon. Le sens de la Bible demande à être dévoilé, et ce dévoilement de la signification, toujours partielle, itératif, est inspiré à l'exégète par Dieu. Alors, méthodologiquement, comment on va s'y prendre? On va essayer de réfléchir à partir d'un exemplier que vous avez eu à votre disposition pour voir comment on peut exploiter une source pour en faire le commentaire, ou si on veut employer un terme plus ambitieux, pour en faire l'exégèse, et on va partir de deux extraits révélateurs de sa façon de procéder. Pour être pieux, alors je sais que le sujet c'est l'impiété, mais on est obligé de parler de la piété. Pour être pieux, il faut comprendre la parole divine. Problème. On va voir qu'il a deux déclarations incompatibles. Dans le traité sur les chérubins, avec les chérubins, ce sont des sortes de super-archanges qui, par exemple, gardaient l'arche d'alliance dans le temple. La musique, la philosophie, la culture, ces images véritablement divines déposées dans l'âme, elles-mêmes données par Dieu, etc. Donc, voilà. Il y a des images de Dieu dans l'âme humaine. Le mot « image », dans le contexte platonicien, ça ne veut pas dire qu'ils ont trop regardé la télévision, hein, ça a un sens précis, ce sont des icônes, et icones, ce sont des formes dégradées, des manifestations dégradées, sensible, mais encore proche de l'idée, donc de l'essence divine. Mais dans le De Somnis, qui est un traité sur les songes, sur les rêves, il déclare au contraire que Dieu est une réalité inaccessible à l'intelligence humaine. Il les transcende, les choses créées, donc y compris les humains, il les transcende si complètement que même la plus pénétrante intelligence demeure bien loin de le saisir et doit confesser son impuissance. Alors, il y a une contradiction. Ou bien il y a trop d'écart pour arriver à comprendre, ou bien il y a dans l'âme des éléments de connaissance du sens, de l'essence, dans l'âme humaine. Mais comment on fait pour concilier les deux? Alors, il faut s'en tirer de ce qui est très fréquent chez Philon, de ces contradictions apparentes. Il faut inférer prudemment une cohérence, une résolution qui peut être confirmée par un troisième passage, encore un passage du traité sur les songes. Celui qui est guidé par la sagesse trouve dans la parole divine le sommet et la perfection de la piété. C'est pour ça que je vous en parle. C'est la sagesse de Dieu qui peut se faire parole. Cette parole, elle est écrite, c'est la Bible. Source de compréhension, source de révélation. Dieu peut vous prendre par la main à condition que vous ayez envie de cheminer avec lui et il peut vous emmener vers un certain degré de compréhension et donc de piété. Donc là, vous avez un premier aperçu d'une méthode qui donne l'idée de la difficulté d'approcher Philon. Alors, forcément, dans ce genre de travail, il y a une seule méthode possible. Il faut lire les textes. On ne peut pas s'en tirer à moins d'avoir lu les textes. Et pour ce travail qui sera forcément d'ampleur limitée, il faut forcément parler d'une chose et d'une seule chose. Donc on va faire correspondre le mot « impiété » au grec « asébéia » et « asécomposé ». C'est une vérité générale que un terme dans une langue source n'est que rarement coextensif à un terme dans sa langue cible. C'est-à-dire que asébéia, on doit pouvoir le traduire et on va le traduire une fois par autre chose qu'impiété. Et inversement, l'impiété française, moderne, contemporaine, doit pouvoir se rendre par d'autres mots grecs que asébéia. Mais, pour les besoins de l'exercice, on va poser une équivalence, impiété égale asébéia. Asébéia égale impiété, et ça marche à peu près, ça ne marche pas pour tous les termes, mais pour asébéia, impiété, ça marche plutôt bien. On va évidemment plutôt se focaliser sur asébéia que sur l'idée française et moderne d'impiété, parce qu'on doit étudier au moins comme point de départ, on doit étudier les concepts tels qu'ils étaient chez les Grecs, et non pas tels que nous les concevons. Au moins comme point de départ. Troisième point dans la méthode nécessaire, il faut bien considérer qu'on ne part pas de rien, si j'ose dire, quand on fait de l'histoire ancienne. D'ailleurs, j'imagine qu'en histoire médiévale, c'est pareil. Si vous faites l'histoire d'une entreprise cannaise ou normande, il y a de bonnes chances pour que vous soyez le premier ou la première à mettre votre nez dans les archives de l'entreprise. Ce n'est pas encore quelque chose de très très développé. Mais quand on travaille sur Philon, il y a des étagères entières de publications et des rayonnages entiers de nouvelles publications chaque année. Sauf que sur ce thème précis de l'impiété, c'est un thème qui semble assez peu traité en tant que tel, ou alors très incidemment, et donc il y a bien un travail de recherche à mener. Une fois qu'on a réfléchi à une base, un corpus de données textuelles, en l'occurrence textuelles, parce qu'on a affaire à un philosophe, donc on ne peut pas faire autrement. Il faut une intuition de départ, parce que c'est toujours de ça qu'on part. Alors ça peut être une intuition d'étape. Dans votre cas, j'imagine que vous ne connaissez pas parfaitement au départ ce sur quoi on vous lance ou vous vous êtes lancé en master. Donc forcément, c'est une intuition d'étape. Mais il faut une intuition à un moment, quitte à se planter et à ne pas la vérifier. Mais un chercheur sans intuition, c'est un compilateur, ce n'est pas un chercheur. Donc, L'intuition de départ, c'est que pour répondre à la question initiale, hein, que je vous rappelle, est-ce que la piété, c'est juste le contraire de l'impiété, et est-ce que l'impiété, c'est juste le contraire de la piété? Intuitivement, je me suis dit non, pas complètement, mais ça doit être assez compliqué. Sinon, c'est pas drôle. Si c'est trop simple, c'est pas drôle. Alors, évidemment, cette intuition, elle n'est pas née de rien. Elle est née forcément d'une connaissance préalable de mon corpus. C'est pour ça que je dis que dans votre cas, sur votre sujet de master que j'ignore complètement, forcément, ça demandera peut-être un temps préalable et ce sera peut-être un moment, étape pour vous. Donc, ce qui va nous servir de fil conducteur, de fil problématique, c'est que chez Philon, la notion simple, la notion préalable, c'est plutôt l'impiété. En français, la notion préalable, c'est piété, et l'impiété est linguistiquement construite comme un dérivé de la piété. Chez les Romains, l'impiété, c'est le fait de se, négativement, de se soustraire au devoir positif de la pietas. Chez Philon, il me semble que la notion construite et plus complexe, c'est la piété. Donc ça tombe bien, on va pouvoir partir de l'impiété. Et comme il s'agit de l'impiété des puissants, on va partir d'un exemple. À l'évidence, l'empereur Caligula est un personnage puissant, et à l'évidence, pour Philon, il commet, je cite, « la plus atroce des impiétés quand il exige qu'on fasse entrer une statue cultuelle dans le temple de Jérusalem ». Alors, en deux mots, parce que vous ne connaissez pas forcément cette histoire, Caligula, qui règne depuis l'année 37, Caligula veut imposer le culte impérial aux Juifs, qui jusque-là avaient réussi à contourner avec l'accord d'Auguste et de Tibère, avaient réussi un peu à contourner cette obligation. Lui veut donc faire déposer une statue colossale à son effigie dans le temple de Jérusalem. Ce genre d'affaire, c'est très important. Et donc, la responsabilité de faire ça échappe complètement au petit gouverneur de la Judée et remonte au grand gouverneur de la province voisine de Syrie, qui s'appelle Pétronius. Et Pétronius, pour parler en termes triviaux et contemporains, la sent pas, cette affaire. Il sent que ça va très mal finir et il tente de dissuader Caligula, au péril de sa vie. Parce que Caligula est très fâché, nous disent nos sources. Heureusement, pour la plupart des acteurs, Caligula meurt assassiné en 41, avant d'avoir pu condamner Pétronius, et avant d'avoir pu mener son projet à bien. Mais au moment où c'est écrit, donc on est encore sous le coup de l'émotion, et Philon nous dit qu'il est impie. Alors, vous pourriez me dire, bah oui, c'est marqué dans la Bible, il ne faut pas faire de représentation cultuelle, c'est très mal, d'ailleurs l'islam dit la même chose. Oui, certes, mais ce n'est pas le problème de Philon. Il est impie parce qu'il insulte le divin en voulant le réduire à des traits humains. Parce que ce faisant, et là vous voyez que Philon, juif tout à fait religieux, aborde des moyens d'argumenter complètement originaux. Il est impie parce que, en ramenant le divin aux traits humains, il viole la relation normale entre les êtres. Le moins puissant dans la relation entre Dieu et l'homme, le moins puissant, c'est l'homme, fût-ce l'empereur. L'empereur est un homme. Évidemment, Philon ne peut pas penser autrement. Et le moins puissant ne peut pas impunément dénier au plus puissant, qui est le bienfaiteur du monde, et vous voyez que vous avez le mot Ergeten, hein, c'est un évergète, il est bienfaiteur du monde, il répand ses bienfaits en abondance, il ne peut pas lui dénier sa foi ou sa loyauté et sa reconnaissance pour ce que Dieu a créé. Philon, petite parenthèse, Philon, exactement comme Flavius Joseph, est littéralement imbibé du vocabulaire de l'évergétisme, comme d'ailleurs toute la société post-hellénistique dans l'Orient de l'Empire. Ce qui serait donc le sébéia, la piété, à l'inverse, c'est donc de pratiquer les honneurs et la reconnaissance due à l'évergète ou au prince, c'est-à-dire de se conformer à l'ordre social et au-delà à l'ordre du monde. Donc à l'inverse, la lèse majesté, je ne vais pas recopier le passage, mais dans l'exemplier, vous avez le paragraphe 125 du traité contre Flaccus. La lèse-majesté, qui est une atteinte à cet ordre social, est définie et même nommée impiété, acébéia. Et l'état d'impiété, où est Flaccus? Alors Flaccus, c'est un méchant, je vous l'ai expliqué dans l'exemplier, pour ceux qui l'ont vu un peu à l'avance. Il est l'ennemi des Juifs, donc ça suffit à en faire un personnage impie, et puis il est accusé de lèse-majesté, donc c'est une autre forme d'impiété, puisqu'il viole l'état normal de la société. Il y a des premiers de cordée, puis il y en a d'autres, et on doit reconnaître l'ordre social comme étant finalement le produit d'une volonté divine. Et son impiété souille toute la création par où il passe. Elle déteint sur le monde. D'où, quand il traverse, parce qu'il doit se rendre à Rome, parce qu'il est convoqué pour répondre de cette lèse-majesté qui lui est imputée, d'où les tempêtes de la mer hivernale, hein, qui ne sont finalement qu'une expression de la justice providentielle. À l'inverse, assez symétriquement, les sacrifices pour le rétablissement de Caligula, que Philon, évidemment, en tant que juif, voit avec méfiance, mais qui sont la piété selon les Romains et auxquels les juifs peuvent sacrifier parce qu'après tout, on peut faire des sacrifices à Dieu pour le salut de l'empereur, ça c'est licite, c'est permis. Eh bien, ça a permis de guérir tous les coumènes qui étaient malades avec lui. Alors, bien sûr, on peut dire, ouais, c'est juste une exagération, une flagornerie, sauf que précisément, Caligula est une des cibles de la détestation de Philon. Donc, il y a, quand on peut mettre deux paragraphes en cohérence, il y a certainement une cohérence philosophique là-dedans. Un des éléments de l'impiété de Caligula, une troisième dimension de l'impiété de Caligula et de Flaccus, c'est donc que le puissant et un cran en dessous, le notable, ont tendance à se croire plus importants qu'ils ne sont en réalité dans l'ordre du monde. Et on va retrouver un autre exemple de sa manière de procéder en laissant des indices textuels comme autant de morceaux d'un puzzle que le lecteur doit assembler. Il a fait partie, parce que c'était un grand notable, d'une délégation envoyée auprès de Caligula pour se plaindre du pogrom de 38. Et puis il apprend sur place, comme je vous l'expliquais dans l'exemplier, cette affaire du temple, et il se dit, ouh là là, si on commence à l'agacer, il est déjà très en colère parce que les Juifs veulent pas de statue dans le temple, si on commence à l'agacer avec notre histoire de pogrom, il va nous arriver des ennuis. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et donc, il commence par poser que ce serait une sorte d'égoïsme collectif, mais ce serait préférer passer en force pour essayer de sauver les intérêts particuliers des Alexandrins contre l'intérêt beaucoup plus général et beaucoup plus important que représente la pureté du temple. Il dit ça, ce serait une impiété. Préférer l'intérêt catégoriel à l'intérêt général, c'est une forme d'impiété. Et donc, Caligula est implicitement taxé d'impiété quand, une dizaine de paragraphes plus loin, il est accusé d'avoir préféré son intérêt particulier, briller devant la cour, mais aussi avoir sa statue cultuelle, à l'intérêt général qui était de préserver la paix et la concorde dans l'Empire. Et puis, paragraphe 206, le grief d'impiété est à ce moment-là explicité, mais à propos des conseillers. Donc ça, c'est typique aussi de la méthode philonienne. C'est pas écrit que Caligula est franchement impie, pas à ce moment-là en tout cas. Mais si on compare les deux caractérisations de l'impiété, Caligula est nécessairement impie. Et Philon oppose à Caligula la figure d'Agrippa, le gendre d'Auguste, qui est pieux non pas parce qu'il adhérerait au judaïsme, Agrippa n'a jamais adhéré au judaïsme, mais parce que Agrippa, c'était quelqu'un, nous dit Philon, qui respectait scrupuleusement la dignité du culte juif, qui manifestait une sympathie agissante et vergétique à l'égard des juifs. Et donc, empêcher le culte juif en souillant le temple ou en tenant pour négligeables les lois et les valeurs du judaïsme, c'est ce qui résulterait de l'entreprise de Caligula, et c'est pareillement une impiété. Caligula est impie parce qu'il veut quelque chose qui va souiller le temple. Et ça peut se faire en une fois. Son gouverneur Pétronius, en revanche, est à un degré un tout petit peu inférieur à Agrippa, montré comme étant un homme pieux. Il est du côté de la piété, parce qu'il veut s'ouvrir à la compréhension de l'altérité juive, ce qui demande beaucoup plus d'efforts pour un Romain. Par ailleurs, quatrième aspect, la notion de sympathie ou d'antipathie, de l'état d'esprit dans lequel on agit est très importante. Ponce Pilate, gouverneur bien connu de Judée, Ponce Pilate est puissant, alors, si quelqu'un est puissant en Judée, c'est lui, parce que son pouvoir est de facto presque illimité, jusqu'à l'arbitraire, inclusivement. Et il est lui-même un impie, non pas parce qu'il aurait fait quelque chose de franchement contraire aux lois religieuses juives, mais parce qu'il a sciemment joué avec les limites. Il a fait déposer dans le temple, à Jérusalem, deux boucliers aniconique, donc il n'y a pas de violation franche, mais avec mention du dédicant lui-même et du dédicataire, l'empereur Tibère. Et il l'a fait, nous dit Philon, évidemment ce n'est pas une lettre d'intention de Ponce Pilate, c'est Philon qui nous dit ça, il l'a fait pour contrarier les Juifs. Le verbe employé, lupessai, signifie à la fois chagriné et vexé. Comme pour Caligula, Philon ne dit pas explicitement que Pilate soit un impie. Mais, même procédé, son exemple advient dans un passage où il est inséré entre deux développements consacrée à Tibère. Et donc, en opposition à ces deux développements, Tibère est, dans ces passages, comme une sorte de jalon dans l'axe qui mène de la piété à l'impiété ou de l'impiété à la piété. Il est celui à partir duquel on peut dire qu'on est plutôt du bon côté, plutôt d'une conduite pieuse. C'est l'entrée dans la polarité positive, si vous voulez, parce qu'en apprenant la conduite de Pilate, Tibère le désavoue. Et il rapatrie des éléments de culte impérial dans la ville païenne de Césarée. Tibère n'est pas porté à la sympathie pour le culte juif. De toute façon, Tibère n'est porté à la sympathie pour à peu près personne. Mais il pratique le respect du judaïsme. Donc, il fait effort sur lui pour réfléchir et dire « est-ce que ça, c'est bien ? Est-ce qu'il vaut mieux pas faire autrement ?» Il entre dans une démarche de piété. Et évidemment, le mauvais esprit de Pilate constitue une impiété aux yeux de Philon. Mais c'est Philon qui prête à Pilate un mauvais esprit parce que la religion juive constitue à ses yeux la seule vérité recevable. On n'est pas du tout dans le cadre d'une pensée relativiste ou d'un effort de type aristotélicien pour mettre à distance ses propres convictions. La piété officielle romaine à laquelle obéit en réalité, pense Pilate, n'est pas la piété à ses yeux de Philon. Même s'il prend la précaution oratoire de nier que ce soit le but de Pilate, « Oh, je comprends bien que ça aurait pu être de la piété, mais c'est pas de la piété, c'était juste pour nous embêter. » On sent bien que c'est de l'apologétique arbitraire. Philon n'universalise pas sa définition ni de la piété, ni de l'impiété d'ailleurs. Alors, jusqu'à présent, on a vu essentiellement les dimensions éthiques du partage entre piété et impiété. Mais au-dessus de l'éthique, il y a ce qui constitue l'accès à la connaissance, qui est un palier bien supérieur pour un platonicien. Il y a une apparence. Alors, si vous entendez des bruits, je vous prie de m'excuser, mais ma voisine fait des travaux importants. Et donc, il y aura des bruits. Il y a une apparence d'opposition symétrique autour de la question de la connaissance. Il y a une connaissance pieuse, et puis il y a une connaissance impie. Philon partage l'héritage biblique de la connaissance comme péché, hein, avec deux emblèmes, la tour de Babel et la tour de Phanuel. Bon, la tour de Babel est beaucoup plus connue, la tour de Phanuel, vous trouvez ça dans les juges, dans le livre des juges au chapitre 8. Tour de Babel et tour de Phanuel sont deux emblèmes, deux icônes de la connaissance illégitime, celle qui témoigne de l'orgueil humain, de la prétention de l'esprit humain à ramener le monde à une connaissance sensible, empirique, qui n'est pas la vraie connaissance idéaliste au sens philosophique platonicien du terme. Alors, ici, au moment où il en parle, l'enjeu pour Philon, comme d'ailleurs ce sera l'enjeu pour les chrétiens, c'est une morale de la rétribution et la question de la théodicée. Pourquoi est-ce que le méchant semble si souvent ne pas souffrir de son impiété ? Question qui, évidemment, taraude bien plus quand il s'agit des puissants qui ont un pouvoir de nuisance que d'un pauvre air. Et la réponse est très platonicienne. En fait, l'impie, il est puni et le juste est récompensé parce que le juste a connaissance de ce qui constitue la piété. Le juste est pieux parce qu'il connaît la piété. Mais si la piété, c'est la connaissance de la piété, on est dans une définition parfaitement tautologique. Et donc cette tautologie ne peut être dépassée que si le pieux s'identifie au logos divin. Qu'est-ce que c'est que le logos divin ? C'est le verbe de Saint Jean, pour ceux qui connaissent un peu le Nouveau Testament. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était dans Dieu, et le Verbe était Dieu, etc. etc. Alors, ce n'est pas le Verbe au sens grammatical du terme, évidemment, c'est une puissance intelligente, organisatrice du monde, au point même, comme elle est divine, de faire advenir la réalité matérielle à partir de sa propre intelligence. Et, alors qu'est-ce que ça veut dire, donc, s'identifier au Logos divin? Précisément, ça ne va pas de soi. Il faut donc, pour le comprendre, partir encore une fois de l'impiété. En quoi consiste l'impiété dans le domaine de la connaissance? Une première forme d'impiété, c'est ce que Philon appelle l'athéisme, et il cite comme exemple Aristote, qui pose le monde comme éternel et incréé. Ce qui d'ailleurs est discutable, et dans d'autres passages, il parle d'Aristote en d'autres termes. Il y a un côté, je parle des choses comme ça m'arrange, hein, chez Philon. Mais là, Aristote est pris comme exemple d'athéisme, c'est-à-dire en réalité d'agnosticisme scientifique, parce que, ce qui est vrai, il sort Dieu du jeu, il sort la divinité du jeu quand il s'agit d'expliquer le monde. On n'a pas besoin de l'hypothèse Dieu pour expliquer le monde tel qu'il est. Ça, c'est une impiété. Deuxième impiété, le vivre selon la nature des stoïciens et différemment des épicuriens. Il n'est pas contre, Philon n'est pas contre le vivre selon la nature. À partir du moment où on précise que la nature, c'est en réalité la créature de Dieu. Donc vivre selon l'ordre du monde voulu par Dieu et qui est exprimé par la loi sacrée de Dieu, expliquée dans la Bible, ça lui va. Mais ce n'est pas ce que disent les stoïciens. Et donc ça ne lui va plus. Donc c'est une forme d'impiété parce que ça ne mène pas à la vraie connaissance. Troisièmement, un autre accès à la fausse connaissance, c'est anthropomorphiser Dieu. Il y a tout un passage de Philon sur un verset de la Genèse où il est dit que Dieu descend sur terre. Il dit, bah, évidemment, Dieu peut pas descendre sur terre. Dieu, il est partout, nulle part. Il est immatériel, il n'est pas humain. Donc, il peut pas descendre sur terre pour aller voir ce qui se passe. Or, le texte de la Genèse ne peut pas être impie, donc il faut en avoir une compréhension totalement allégorique. Mais se représenter Dieu sous une forme humaine, c'est, je cite, « une impiété plus vaste que l'océan et, si l'on peut dire, qui dépasse les bornes de l'univers. » Il ne va pas avec le dos de la cuillère. Pourquoi ? Parce que c'est substituer le confort d'une fausse compréhension à la connaissance véritable. Quatrième impiété, c'est l'illusion que l'esprit humain est assez puissant pour comprendre le monde divin. Et il y a un passage que je n'ai pas dû vous recopier parce que je me suis exprès limité à deux pages dans l'exemplier, un traité sur la confusion des langues, donc à propos de la tour de Babel, hein, qui, vous savez, débouche sur la confusion des langues et qui est une figure de l'impiété, y compris dans la Bible. Il emploie deux fois pour condamner cet esprit agnostique qui croit pouvoir se passer de la révélation divine pour comprendre le monde, il emploie deux fois le terme autokratora, qui est le terme qui désigne en grec l'empereur. Celui qui croit pouvoir régner par son intelligence sur l'intelligence du monde, sur la compréhension du monde. C'est un impie. Donc, en gros, si vous voulez, l'impiété commence avec la non-reconnaissance de l'action divine. Tout ce qui est de l'ordre du « c'est comme ça ». Il y a donc là une première rupture de symétrie. Parce que être impie, c'est seulement, ça commence dès qu'on n'intègre plus à sa pensée la nécessité de vivre dans un monde créé par Dieu et qui fonctionne selon la loi de Dieu. L'impiété peut tout à fait n'être qu'une abstention de l'esprit. Alors que la piété, c'est nécessairement une tension vers. Ce qui explique que, par exemple, l'espoir soit une qualité, parce que quand vous espérez, vous faites en sorte que ça advienne. La piété, c'est le bout d'un cheminement, dans la mesure où ça passe par la compréhension progressive de Dieu, et donc la conformité à des doctrines ou à des commandements justes. Donc, pour y parvenir, il faut lutter, et plusieurs fois chez Philon, l'athlète, qui redouble d'efforts et d'entraînement, est une métaphore de la piété. Au contraire de l'impiété, donc la piété est une construction permanente. Alors là, Philon se sépare radicalement du judaïsme rabbinique, par exemple. À un premier niveau, dans le judaïsme rabbinique tel qu'on connaît, l'impiété se confond avec l'impureté. Pour le judaïsme rabbinique, c'est le fait de ne pas respecter les règles de pureté qui entraîne à la fois l'impureté et l'impiété. Elles sont rédigées, ces règles, de telle manière qu'on est forcément ou dedans ou dehors. Et quand quelquefois c'est quand même très complexe, eh bien, il y a des rabbins pour vous dire ce qu'il faut faire. Pour Philon, mais à la même époque pour Paul de Tarse, le saint Paul des chrétiens, la question est surtout morale. La question de l'impiété ne tient pas à des règles de pureté, elle tient à une position morale, éthique et intellectuelle. Alors, ce n'est pas foncièrement différent, sauf sur un point. La piété, ce n'est pas, pour Philon, comme d'ailleurs pour Paul, ça n'est pas le simple fait de s'abstenir de l'impiété. La piété ne réside pas dans un culte quelconque, une adoration idiote parce qu'il considère que le culte égyptien des animaux est quelque chose de complètement idiot, une adoration païenne. Non. La piété réside dans un effort pour percevoir au-delà des réalités sensibles. Je vais oublier une diapo. Et donc, on revient à ce passage du traité des songes dont je vous ai parlé au début. Celui qui est guidé par la sagesse trouve dans la parole divine le sommet et la perfection de la piété. Être guidé, ça ne vous empêche pas de gravir la pente. C'est pas parce qu'il y a un guide de montagne que c'est très facile de gravir un sommet andin ou tibétain. Il doit y avoir une démarche. Mais si on a encore le temps, et je pense que oui, un petit peu, la relative dissymétrie entre piété et impiété ressort peut-être encore plus du personnage de Balaam. Alors, qui est Balaam ? Pas le personnage le plus connu dans la Bible. Dans le récit biblique, dans le livre des Nombres, c'est un prophète au service du roi de Moab. Donc, j'ai considéré ne pas exagérer en le rangeant parmi les puissants. Regardez dans la Bible, Jérémie et un certain nombre de prophètes majeurs sont des personnages très puissants. Et il est mandaté par le roi de Moab pour aller maudire les Hébreux qui viennent de déboucher du désert. Vous avez peut-être vu ce film, à mon avis aujourd'hui, irregardable, qui s'appelle « Les Dix Commandements » et qui raconte, entre autres, la traversée du désert par les Hébreux. Les Hébreux débouchent du désert, et le roi de Moab s'inquiète de voir ses nouveaux venus. Donc, il envoie son prophète Balaam pour les maudire. Et au moment où Balaam va prophétiser, il se rend sur la frontière, hein, et au moment où il va prophétiser, paf, Yahvé lui ouvre les yeux, et Balaam prophétise l'avènement d'un Messie issu de Jacob, donc juif, hébraïque en tout cas, hébreu. C'est au chapitre 24, verset 17 des Nombres. On n'entend plus parler de Balaam, sauf, paradoxalement, au chapitre 31, verset 8, on apprend qu'il a été tué par les Israélites lors d'un raid contre le pays de Moab. Et au verset 15, Moïse, qui n'est pas un tendre, blâme ces hommes d'avoir ramené des femmes moabites comme prisonnières au lieu de les tuer sur place, hein, parce qu'il les rend responsables de l'apostasie de nombreux Israélites, hein, qui se sont adonnés au culte de Baal, hein, donc qui rééditent l'apostasie du veau d'or et qui inaugurent la longue série des chutes du peuple élu. En réalité, le livre des Nombres, au moment où il parle de cette apostasie et du culte de Balaam, de Baal, pardon, ne parle absolument pas de Balaam. Absolument pas. Et le chapitre 31 ne fait aucun lien, ni explicite ni implicite, entre la mort de Balaam à l'occasion du raid et le grief, le reproche qui est adressé aux femmes de Moab, femmes moabites. Apprendre le texte biblique à la lettre. Balaam est donc largement un personnage positif, un modèle de conversion à la bonne piété, et puis brièvement et inexplicablement, il est tué dans un contexte où ses compatriotes sont accusés d'être responsables de l'apostasie des Hébreux au profit du culte de Baal. Alors, en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des traditions complexes et que les rédacteurs de l'Ancien Testament ont, comme ils ont pu, essayé de recoudre ces traditions. C'est une tradition qui est probablement donc très antérieure au texte biblique et on a retrouvé une inscription fragmentaire qui semble prouver que ce personnage de Balaam a une existence littéraire indépendante de la Bible, au moins dès le 8e siècle, hein, au plus tard au 8e siècle avant Jésus-Christ, probablement avant, en pays araméen, sur la rive orientale du Jourdain par conséquent, et qui en fait, petite parenthèse, un cas à peu près unique pour les spécialistes qui réfléchissent sur l'histoire du texte biblique. Alors, peu nous importe aujourd'hui l'amont de ces traditions, ce qui va nous importer, c'est plutôt l'aval. Quand on arrive au 1er siècle après Jésus-Christ, on voit réapparaître le personnage de Balaam dans des épîtres du Nouveau Testament, dans l'Apocalypse de Jean, et là, le personnage est toujours très mal vu. Dans le Nouveau Testament, il est figé dans une identité simplifiée. Il est celui qui conseille le roi de Moab, donc il lui conseille la malédiction des Hébreux, puis qui, comme ça a raté, amène les Israélites aux cultes idolâtres, et donc il est légitimement voué à la mort par Moïse. C'est-à-dire que le Nouveau Testament ignore radicalement la complexité du récit de l'Ancien Testament et en écrase la chronologie pour rendre Balaam intégralement coupable. Donc, c'est probablement une sorte d'opinion assez courante dans le monde juif et judéo-chrétien de cette époque, parce que Philon, qui en fait une figure de l'impiété, est tout à fait dans la même logique. Mais Philon, qui est un fin connaisseur de l'écriture, puisqu'il passe sa vie entière à essayer de l'expliquer, Philon est parfaitement conscient de la contradiction inhérente au récit du livre des nombres, contradiction que je vous ai expliquée. Contradiction logique entre sa mort, contradiction logique entre sa conversion supposée et sa mort et la malédiction de Moïse. Alors, il va s'en tirer en établissant un lien logique, qui n'est pas dans le texte biblique, entre sa mort, au verset 8, et la malédiction prononcée par Moïse contre les femmes fautives de l'apostasie. Et il va chercher à établir, et ça le Nouveau Testament le fait aussi, mais il va chercher, et ça c'est plus original, à établir un lien logique entre son attitude au moment où arrivent les Hébreux et où il les bénit et les glorifie, et sa mort. En fait, ce qu'il faut comprendre, explique-t-il, c'est que les bénédictions d'Israël prononcées par Balaam, ce ne sont pas les paroles de Balaam, ce sont les paroles de Dieu. Balaam n'a été qu'un véhicule temporaire. Il n'avait pas part à ce qu'il disait. Au contraire, quand il conseille aux Israélites d'embrasser le culte de Baal, il révèle sa méchanceté parce qu'il est lui-même. Et donc, le retour du personnage à son point d'origine, tel qu'il était suggéré par le texte de l'Ancien Testament, trouve sa cohérence si on comprend qu'en réalité, il n'y a aucun retour parce qu'il n'y a eu aucun voyage intérieur. Il est resté tel qu'en lui-même. Et quand il a prophétisé, il n'a prophétisé la parole de Dieu que, comme dirait un coureur cycliste, à l'insu de son plein gré. C'était pas lui. Mais il y a corrélativement une seconde dimension, une seconde explication à son impiété. Balaam n'est pas seulement prophète et devin. Il est aussi qualifié de magicien, magos, c'est le mot qui donne mage en français, et sophiste. En tant que magicien, là aussi, comme pour les Romains, il y a deux polarités. Vous avez des magiciens affreux. C'est évidemment à eux que s'apparente Balaam. Ces mauvais magiciens, ce sont les magiciens itinérants, ces charlatans qui vous vendent des sorts. Et Balaam se déplace, il va de la capitale du royaume de Moab jusqu'aux frontières. Ça en fait un magicien itinérant. Il y a aussi de mauvais magiciens, ce sont, rappelez-vous, si vous avez vu les 10 commandements, Moïse doit prouver contre les magiciens du Pharaon, que sa puissance magique est réelle parce qu'elle est inspirée par Dieu, alors que les magiciens de Pharaon sont de faux magiciens. Ils ne sont pas habités par le vrai Dieu. Balaam n'est pas habité par le vrai Dieu, ou alors très temporairement, encore une fois, à son insu. Moïse, par contre, par opposition, il est, si on veut, magicien, puisqu'il fait preuve, ça c'est le texte biblique, hein, il est capable de faire sort contre sort, hein, c'est une espèce de super Harry Potter, il ressemble à des magiciens tout à fait respectables, chez Hérodote, chez Platon, chez Aristote, et chez Philon, donc, ce sont les magiciens perses. Parce que les Perses, eux, ils ont des vrais magiciens, avec des compétences, qui sont des experts reconnus. Et ces compétences constituent à la fois une sagesse et une science, une connaissance. Et donc, c'est une autre façon de légitimer les capacités magiciennes de Moïse. Mais Balaam a été traité par Philon de mage et de sophiste. Sophiste, c'est évidemment pas dans le texte biblique, c'est un ajout de Philon. Mais en tant que sophiste, il est insincère dans ses paroles. Il prononce les paroles de Dieu, mais contre son inclination propre. Et donc, ce qui fait une différence fondamentale, définitive, avec la véritable inspiration divine des prophètes hébreux, c'est que, contrairement aux prophètes, lui, il retourne vivre à Moab, dans la capitale de Moab, auprès du roi. Il refuse l'idéal de vie qui va de pair avec la fonction prophétique et qui constituerait la véritable piété. Alors, on arrive maintenant donc à la conclusion. En réalité, même si j'ai essayé, tant bien que mal, de me concentrer sur les puissants, en réalité, chez Philon, il n'y a pas de différence de nature entre l'impiété des puissants, celle des notables locaux ou celle du peuple commun. L'impiété, elle vient de l'oubli où on est, de la retenue ou de la crainte qui est due aux choses divines. C'est quand on oublie la crainte, la révérence qu'on doit aux choses divines qu'on tombe dans l'impiété. Si on y pense, même si on n'adhère pas, mais si on respecte, on se garde de l'impiété. Et l'impiété se mesure au châtiment qu'elle provoque en retour, aussi bien pour des empereurs que pour des notables. Alors, cette punition, elle peut être simplement qu'on est condamné à l'ignorance. Alors, des esprits impies, des petits esprits vont dire « bah, l'ignorance, c'est pas bien grave ». Mais précisément, ceux-là ne seront jamais des pieux. Et puis, ça peut aussi mal terminer et on peut finir assassiné comme Caligula ou exécuté sommairement comme Flaccus. Alors là, Philon se situe tout à fait dans la continuation d'une grande tradition de l'Ancien Testament. Les plaies d'Égypte dans le livre de l'Exode, c'est une punition pour l'impiété de Pharaon. La destruction de l'armée de Sennachérib dans le deuxième livre des Rois, c'est une punition pour l'impiété. Mais ça marche aussi pour des livres beaucoup plus récents d'époque hellénistique, l'exécution d'Aman, le méchant, dans le livre d'Esther, la démence de Nabucodonosor et la mort de Balthazar dans le livre de Daniel. Tout ça, ce sont des métaphores, des illustrations plutôt de l'impiété, d'où la métaphore qui est utilisée. C'est pour cette raison qu'ils se sont bien gardés de répandre ceux qui n'étaient pas juifs, grecs, barbares, satrapes, rois, ceux qui n'étaient pas juifs, au moins ils ont fait attention à respecter le judaïsme pour ne pas répandre une semence impie, parce que ça leur aurait fait récolter une moisson qui consommerait leur perte. Là aussi, c'est une vieille image biblique, ça vient du livre d'Osée, qui est un prophète mineur, mais dont vous connaissez certainement l'adage « il sème le vent, il récolte la tempête » à propos des idolâtres. « Qui sème le vent récolte la tempête », c'est une citation biblique. Donc, la piété, c'est bien un cheminement, une expérience qui devient à son tour point d'origine pour la pratique de la vertu, alors que l'impiété, plus qu'un mauvais cheminement, évidemment, vous pouvez en plus ajouter un mauvais cheminement, violer la loi mosaïque, faire preuve d'orgueil savant, vous abandonner à la sensualité. Alors, par sensualité, je veux pas parler des orgies, mais une connaissance empirique du monde. Mais très souvent, l'impiété, c'est un surplace. On s'abstient du cheminement qu'il faudrait faire. On se contente de l'immédiateté de la connaissance sensuelle. On reste dans l'extériorité par rapport au logos. Et, d'une certaine manière, Philon tire pleinement les conséquences d'un fait linguistique, du préfixe privatif « a » de « acbia ». Là où le français utilise un préfixe « un », préfixe négatif, pour faire de l'impiété le contraire de la piété, le grec utilise un préfixe privatif et fait de l'impiété une privation de piété. C'est en ce sens que la joie est impossible aux impies et aux esprits défectueux, aux minables, folloi. Alors, la joie est impossible aux impies, c'est une citation d'Isaïe. Mais c'est Philon qui ajoute les folloi, les minables, les pauvres types. Ils sont dans l'impiété parce qu'ils sont incapables de faire le chemin nécessaire. Ce qui leur manque, c'est l'éclairage de la piété comme produit d'un cheminement de l'intelligence. Et, là, je finis vraiment, il me semble que c'est une conception de la piété assez comparable, assez proche à celle qui éclaire un certain nombre de grands courants mystiques. Je pense à la Kabbale, je pense au soufisme d'un Ibn Arabi, par exemple. Voilà.
Bon, bah, merci beaucoup. Il y a un écho, mais...
Ça arrive.
Bah, merci pour cette présentation. On va faire un applaudissement virtuel. Voilà. Merci. On va faire comme la semaine dernière on a fait pour le cycle poésie et politique. Je vais proposer aux étudiants d'abord de poser des questions que les autres pour l'instant pour poser leurs questions. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions de la part des étudiants? Je rappelle que vous pouvez poser les questions soit dans le fil de discussion, soit en prenant la parole et en allumant votre micro.
Alors, aurait-il été impertinent de faire le contraire, en fait, de partir de la piété pour aller vers l'impiété? On aurait pu partir de la piété comme qualité sociale, mais je pense que je pense quand même que la piété, chez Philon, la piété aide moins à comprendre ce qu'est l'impiété que l'impiété à comprendre la piété. Je pense quand même que c'était plus logique, mais on peut toujours s'amuser à inverser une démarche. Alors, est-ce que je ne vais pas dans le sens inverse ? Non, parce que le mouvement, précisément, c'est quelque chose qui doit se construire. Je ne crois pas, je n'ai pas le sentiment de faire l'inverse, d'arriver au point inverse.
Si je peux rebondir, est-ce que vous avez l'impression, finalement, que l'impiété est une sorte de position par défaut ? Et qu'il faut faire un effort pour aller vers une forme de piété, c'est ça?
Oui, merci. Parce qu'effectivement, voilà, l'expression position par défaut, si on ne fait rien, si on s'abstient de faire le mal, dans beaucoup de religions ou dans beaucoup de milieux, finalement, si on s'abstient de faire le mal, on est plutôt du côté du bien, souvent. Chez Philon, si on s'abstient de faire le mal, ça ne peut pas suffire, parce qu'on ne fait pas l'effort nécessaire pour faire le bien. Et donc, effectivement, le par défaut vous met pas du bon côté. Alors, est-ce que les résultats auraient été différents si j'avais fait l'inverse? Écoutez, très franchement, je ne suis pas un grand spécialiste de Philon, donc je ne peux pas le savoir à l'avance. Il faudrait que je m'amuse à refaire l'intervention en sens inverse. C'est quand même un effort d'exégèse, hein. C'est quand même des textes assez complexes. Je ne sais pas. Ça donnerait peut-être pas la même chose. Je ne sais pas. Comme ça, je ne peux pas vous le dire. Joseph, je commence à l'avoir parcouru un peu dans tous les sens, c'est quand même pas le cas de Philon. Comment peut-on lier et comparer les notions d'impiété et de transgression? Je pense que alors, il peut y avoir des bonnes transgressions, il peut y avoir des transgressions pies, si vous transgresser l'ordre de Caligula, là, bien entendu, vous ne respectez pas la voie hiérarchique, mais c'est une transgression pour quelque chose de beaucoup plus important qui est la pureté du temple et la piété. Donc ça, c'est une transgression possible. Mais très souvent, effectivement, la transgression sera la porte d'entrée de l'impiété. Si vous transgressez l'ordre social, si vous ne reconnaissez pas la supériorité sociale de l'évergète, c'est une transgression de l'ordre social, c'est la porte d'entrée vers l'impiété. Mais la transgression peut y avoir, au moins intellectuellement, une bonne transgression. Quand Pétronius dit, je peux pas obéir à l'ordre de Caligula, faut que je trouve quelque chose pour le retarder et pour le dissuader, c'est une forme de transgression, mais ça en fait un pieu. Est-ce que le modèle de l'impiété se retrouve dans d'autres conceptions de l'impiété plus tardive comme médiévale? Eh bien, j'aurais tendance à penser que la question ne s'adresse pas à moi. J'ai donné quelques esquisses de pistes avec des noms, mais honnêtement, je ne suis pas capable d'en parler comme ça au dépoté. Ne sais pas si Alban Gauthier
Moi,
a
la
des
question me semble très vaste.
réponses.
Cette vision finalement d'une impiété généralisée. Je reprends l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure de position par défaut. Là, je pense tout haut. Hein. Mais la
Peut-être.
rapprocher du péché originel chez Augustin, ça pourrait être intéressant d'essayer de creuser ça, de voir si cette idée qu'il y a sans l'aide de Dieu, sans un travail accompli par Dieu ou par l'être humain, ça ensuite, mais sans un travail qui conduit l'être humain à faire la volonté de Dieu, sans cela, d'une certaine manière, c'est mal barré pour
Oui,
l'expression
cette
triviale.
conception.
Ça, c'est présent chez Augustin, évidemment, et ensuite, c'est extrêmement influent tout au long du Moyen-Âge chrétien. Alors ensuite, est-ce que c'est directement lié à Philon ou pas? J'en ai évidemment aucune idée. Mais voilà, cette forme de pessimisme hein, sur la nature humaine qui conduit à insister sur la nécessité d'une aide divine, que ce soit à travers l'étude des textes sacrés, l'étude de la Bible, ou que ce soit à travers l'action de l'esprit. Mais voilà, la nécessité d'une aide divine pour parvenir à une piété, c'est-à-dire pour parvenir à faire la volonté de Dieu, ça me semble quelque chose d'extrêmement prégnant tout au long du Moyen-Âge et au-delà avec la Réforme, etc. Donc, c'est une question un peu vaste et c'est une réponse un peu à côté peut-être, mais j'ai cette impression-là.
Alors, peut-on lier l'idée de piété égale mouvement avec la mobilité des Juifs? À ma connaissance, ce serait de l'ordre métaphorique, à ma connaissance, la métaphore ne se trouve pas chez Philon. Il ne peut pas penser à tout. Donc, à ma connaissance, ce genre de métaphore de la traversée du désert comme accès à la piété ne se trouve pas chez Philon. Mais honnêtement, je n'ai pas lu tout Philon in extenso. C'est une œuvre énorme.
Alors, maintenant, y a-t-il d'autres questions? On peut laisser d'autres que les étudiants s'exprimer. Edith, j'imagine que tu as plein de questions.
Oui, j'en ai beaucoup. Alors, je ne sais pas par où commencer. Je pense simplement, pour reprendre la question de Nicolas Grandin, l'idée que la piété soit liée à la comment dire, à un itinéraire géographique parsemé d'obstacles, comme l'est la traversée du désert, c'est évidemment une allégorie biblique pour tout le monde, quoi. Je pense que c'est pas, même si on ne le trouve pas chez Philon, on peut tout à fait interpréter le parcours des Hébreux dans ce sens-là, sans même aller chercher des ressources platoniciennes. Moi, ça me paraît une symbolique assez. Zut, on ne voit plus. Enfin bon, on ne voit plus, c'est pas très grave. Mais, alors, vous me voyez, moi je ne me vois plus, je ne vois plus rien.
On te voit figé, ce n'est pas grave.
Bon, alors je continue. Alors, attendez, je réapparais. Excusez-moi. C'est plus agréable de se. C'est bizarre, hein, mais de se voir. Bon. Sinon, alors, il y a, disons, en essayant de comprendre un petit peu la pensée de Philon telle que tu l'as décrite, en partant du fait que l'impiété, finalement, c'est le comportement ordinaire, c'est le ouais. comportement général, et donc c'est ça qui est un peu difficile à accepter. L'impiété n'est pas une transgression, mais au contraire un comportement conformiste. La piété, l'impiété se définirait par rapport à des normes. Et il me semble que de ce point de vue-là, il y a un peu de contradiction dans la pensée de Philon. Parce que si l'impiété, c'est le comportement conformiste, c'est-à-dire celui qui est dicté par les élites comme l'empereur et les grands fonctionnaires impériaux, que ce soit le préfet d'Égypte comme Flaccus ou le préfet de Judée comme Pilate. Ce comportement impie, en même temps, il est à la fois hostile aux Juifs, finalement, parce que l'impiété, c'est quoi ? L'impiété, c'est l'attitude des gens qui ne respectent pas le judaïsme. Alors, c'est une attitude, effectivement, qui est conforme aux normes de l'époque, mais Caligula, en voulant ériger sa propre statue dans le temple, donc de se faire rendre un culte à l'égal du Dieu que les Juifs se gardent bien de représenter, c'est bien sûr un acte sacrilège. La conduite de Flaccus qui favorise la persécution des Juifs à Alexandrie en 38, c'est une attitude anti-juive. Celle de Ponce Pilate qui consacre des boucliers dans le palais d'Hérode à Jérusalem, en respectant d'ailleurs les règles du judaïsme, sans image, sans représentation, mais en indiquant le nom du dédicant qui est Tibère. Tout ça, ce sont des comportements anti-juifs qui sont dans la norme sociale de l'époque, mais évidemment que Philon réprouve. Mais d'un autre côté, le respect de l'ordre social qui est, d'après ce que tu as à juste titre d'ailleurs montré, enfin en partie, est calqué sur le modèle de l'hébergétisme, c'est-à-dire que le puissant dispense ses bienfaits à son peuple et le peuple lui en rend grâce et reconnaissance. Ça, le respect du système de l'hébergétisme, c'est du côté de la piété. C'est-à-dire que Caligula est impie parce que en réalité, fondamentalement, son impiété, c'est de ne pas respecter les croyances et les usages, les pratiques religieuses des Juifs, et de ne pas respecter le code de l'hébergitisme, puisqu'il devrait ne pas se hisser à la hauteur du grand hébergète qu'est Dieu. Donc finalement, l'impiété de Flaccus, c'est bizarre parce que l'impiété de Flaccus, celle qui est mise en avant par Philon d'après les textes, hein, l'exemplier que tu nous as distribué, c'est pas tellement, alors qu'au fond c'est ça pour Philon qui est important, mais celle qui est mise en avant, c'est pas tellement son comportement de répression à l'égard des Juifs d'Alexandrie, que le fait qu'il se soit rendu coupable de lèse-majesté à l'égard de Caligula, parce que c'est ça qui provoque la tempête, qui est la réponse de la Providence. Et donc là, c'est un comportement anti-hébergétique aussi, puisqu'il n'a pas respecté son bienfaiteur. Alors, je trouve que de la part de Philon, il y a deux piétés et un piété. Enfin, c'est pas très clair. Je trouve que d'un côté, il y a un piété qui est tout simplement un comportement anti-juif, qui est le comportement ordinaire des Romains à cette époque. Et puis, en même temps, le respect de l'ordre social qui est le même, qui est un ordre social romain, bon, hérité de la culture hellénistique, enfin entièrement romain, ça, c'est une conduite pieuse, c'est la piété. Et je trouve que Philon est un peu à cheval sur deux conceptions, ce qui reflète probablement sa propre situation, disons, d'un point de vue autobiographique, parce qu'il est lui-même un notable, il est lui-même complètement intégré dans les rouages de l'administration d'Alexandrie. C'est pour ça qu'il est envoyé en ambassade auprès de Caligula. On n'envoie pas en ambassade un marginal qui prêche à Hyde Park. Hein. Bon, donc, il fait partie des grandes familles alexandrines. Donc, il a lui-même complètement intégré cette culture hellénistique et romaine pour laquelle qu'il défend. Donc, c'est pour ça que pour lui, la piété, c'est le respect de cet ordre social. Mais en même temps, il défend aussi son particularisme religieux en qualifiant d'impie tous ceux qui ne s'y conforment pas. Mais en réalité, le particularisme religieux, il est contradictoire, le judaïsme, hein, il est contradictoire avec le respect de l'ordre social. C'est bien d'ailleurs pour ça que les Romains le combattent. Alors, je trouve que Philon, il n'est pas très clair. Voilà, je sais si tu es d'accord.
Si, bah, t'as fait un peu la question et la réponse en même temps.
C'est une suggestion.
Effectivement, oui, mais c'est le problème de tous les conservateurs, enfin de tous. C'est le problème d'un certain nombre de conservateurs. L'Église catholique a connu ça aussi. Comment concilier l'amour des pauvres, le message évangélique et l'envie de préserver un ordre social où il y a des riches qui peuvent se conduire très mal. Donc, il est effectivement dans une espèce d'inconséquence sociale qu'on ne peut que constater. Et simplement, on peut constater que l'hébergétisme, c'est parfaitement compatible avec les valeurs aristocratiques du monde juif de cette époque et des siècles précédents. Mais oui, il y a une sorte de mur, hein, d'aporie. On ne cherche pas trop à approfondir les contradictions potentielles entre la nécessité de respecter l'ordre social et le moment où il dit « oui, mais là, ça ne marche plus parce que c'est mon Dieu à moi ». Il n'y a aucun relativisme, il n'y a aucune mise à distance de type aristotélicien. Un Aristote aurait certainement cherché à réfléchir là-dessus. Philon, non. Effectivement, c'est un point aveugle de sa réflexion. Alors, pour répondre...
Merci pour cette réponse. Ouais.
Après, si tu veux, je le connais pas, je ne l'ai pas interviewé, mais le fait est que c'est un point aveugle. Après, il y a des questions écrites. Alors, quelle est la réaction de Philon par rapport à la divinisation des empereurs romains ? Évidemment, en tant que juif, ça ne pouvait pas lui faire plaisir. Voir un système de pouvoir qui décrète que des hommes sont devenus des dieux, c'est-à-dire en rajouter non seulement au polythéisme, mais non seulement être dans le polythéisme, mais rajouter l'idée que des humains peuvent être dieux, ça ne pouvait pas lui faire plaisir. Néanmoins, là aussi, c'est un point aveugle, c'est-à-dire qu'il fait l'éloge d'Agrippa et d'Auguste, ce sont des gens super, ils nous parlaient avec respect, ils étaient vergettes, etc. La divinisation d'Auguste est un point aveugle. Ça n'existe pas dans son œuvre. C'est une façon de le contourner. Et oui, pour répondre à la question suivante, oui, évidemment que Philon est élitiste. Évidemment. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Hein, il n'est pas le seul. Les courants mystiques sont rarement des courants très démocratiques. Il faut arriver à la lumière, il faut être élu, il faut, alors ça prend différentes figures, hein, différents chemins, mais l'homme, parce que ce sont souvent des hommes, mais dans la mystique rhénane, ça peut être des femmes, ou dans la mystique espagnole, ça peut être des femmes, l'homme ou la femme qui parvient aux noces mystiques, à l'illumination, à l'expérience, à l'extase mystique, à ce que vous voulez, c'est quand même d'une certaine manière quelqu'un qui a été élu. Oui, oui, c'est pas le commun des mortels. Après, chacun peut entamer son effort. Mais ça, c'est comme l'alpinisme dont je parlais tout à l'heure. Il y a ceux qui un jour grimpent l'Annapurna, qui d'ailleurs peuvent en revenir brûlés, hein, avec les doigts de pied gelés, ça peut leur occasionner des pertes, mais ils ont connu l'Annapurna. Puis il y en a, le Mont Blanc, c'est suffisant pour eux, et puis il y en a 2000 mètres, ça leur suffit. Voilà. Faut faire son chemin. Mais oui, c'est une conception élitiste, bien sûr.
Il y a une dernière question peut-être avant qu'on puisse passer à la communication de William Pillot qui nous a rejoint. Une dernière question. Et dans ce cas-là, on va remercier encore Serge Bardet. Pour sa présentation, pour les réponses qu'il a faites à vos questions. Et puis, nous allons pouvoir passer à la communication de William Pillot. Merci.